Ici Daniel Aucoin de Radio CKJM. Pour souligner la période du temps des fêtes, on vous présente aujourd'hui le récit « Un souhait à Noël » de Charlie Dan Roach. Ce texte rappelle les souvenirs d'un Noël très spécial qui demeure bien gravé dans sa mémoire, celui de l'année 1955.
Quand j'étais petit garçon, grandissant à Point Cross aux années 1950, nous vivions à une époque où le standard de vie local était passablement différent qu'il ne l'est aujourd'hui. Il serait exagéré de dire que nous vivions dans la pauvreté, en comparaison avec certaines régions du monde où les gens meurent de faim ou en raison de conditions non hygiéniques. Disons plutôt que plusieurs des luxes et conforts que nous prenons présentement pour acquis n'existaient pas en ces temps-là. Par exemple, la télévision n'avait pas encore fait son apparition dans notre région. On n'avait comme divertissement que la radio, avec seulement quelques postes que l'on pouvait capter. On écoutait surtout CJFX d'Antigonish pour la programmation en anglais et CHNC de New Carlisle en Gaspésie pour celle en français. Aussi, avec un peu de chance, on captait parfois tout le matin par la propagation ionosphérique, ce que les Anglais appellent le skip, un poste de Wheeling en Virginie-Occidentale qui jouait de la musique country de Nashville. Nos téléphones, en ces années reculées, n'étaient pas très intelligents. En effet, le service était plutôt stupide. Il fallait tourner une manivelle sur l'appareil pour sonner un numéro, utilisant un code de longue et de courte sonnerie pour distinguer les chiffres de dizaines de ceux des unités. Par exemple, trois longues sonneries suivies de deux courtes pour signaler le 32. Gring! Gring, 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 gring. Et il y avait plusieurs abonnés sur une même ligne, ce qui permettait à 20 personnes ou plus d'écouter vos conversations. Pour compliquer les choses davantage, les lignes étaient toujours en panne avec la moindre tempête. Bien peu de familles de la région en ces temps-là pouvaient se permettre le luxe d'un automobile. Les quelques messieurs qui en avaient les moyens se gagnaient un peu d'argent pour aider à défrayer leurs coûts d'opération, en offrant des services de taxi aux gens sans voiture. Ils transportaient ainsi les gens d'en arrière au district du Hove pour faire leurs emplettes, pour se rendre au cabinet du médecin ou à l'hôpital, pour aller régler leurs affaires à la caisse ou à la banque, ou pour assister aux services religieux. Nous étions du nombre de ceux qui dépendaient de ce service de taxi. Je me rappelle en particulier que nous nous rendions à l'église avec notre voisin, Denis Lefort, frère de la renommée artiste canadienne de la laine, Élisabeth Lefort. Denis avait un fourgon dans lequel il avait installé deux grands bancs, un contre chacun des murs. Sur semaine, il l'utilisait comme autobus scolaire pour transporter les étudiants du district de Plateau à l'école du couvent, au Havre. Les dimanches et les jours de fêtes religieuses, il s'en servait pour amener des gens de Point Cross et du Ridman à l'église Saint-Pierre. Bien sûr, la pêche constituait le principal gagne-pain des gens, comme elle l'a toujours fait. Mais cette industrie n'était guère lucrative comme elle l'est de nos jours. Cependant, un pêcheur pouvait au moins procurer le poisson pour sa famille sans grande dépense. Plusieurs autres hommes du village allaient travailler à la coupe du bois, surtout dans la région de Sainte-Anne. Ils demeuraient dans les chantiers pour plusieurs semaines d'affilée, sans revenant à la maison que pour une coupe de jours à la fois, de temps en temps. D'autres travaillaient dans la mine de charbon de Dean Evans à Dunvegan et quelques-uns au parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton. Alors que les hommes étaient partis au travail, les mamans et les plus vieux enfants s'occupaient du potager et des quelques animaux qu'on élevait sur la ferme. Une coupe de vaches, un cheval, un cochon, quelques moutons et des poules. Même le climat local a beaucoup changé au cours des décennies qui se sont envolées depuis le temps de mon enfance. Ordinairement, aux années 1950, le temps sévère de l'hiver commençait beaucoup plus tôt qu'il ne le fait actuellement. Ce n'était rien d'inusité, à l'époque, de recevoir des accumulations de neige considérables au tout début de décembre. Et bien sûr, nous avions beaucoup de nos informes suaires, le vent du sud-est de force d'ouragan, pour faire tourbillonner toute cette neige et rendre la visibilité pratiquement nulle. Parfois, ces conditions de poudrerie pouvaient durer jusqu'à 20 heures d'affilée. Ce lent préambule m'amène à rappeler les souvenirs d'un Noël très spécial qui demeure bien gravé dans ma mémoire, celui de l'année 1955. Cette année-là, mon père travaillait dans l'industrie de la coupe du bois. En ce temps-là, on utilisait encore les chevaux pour sortir les tronçons que les hommes bouchaient. Mon père, qui avait toujours adoré les chevaux, était naturellement employé à les conduire dans leur travail et à assurer leur bien-être. Il demeurait au camp pour de longues périodes de temps, et durant toute la saison de l'automne, nous ne l'avions vu que pour une couple de jours à la fois, de temps en temps. Mon père manquait beaucoup à mon frère aîné, ma sœur et moi-même, et nous avions hâte au congé de Noël pour pouvoir passer plus de temps ensemble. Cependant, notre excitation allait bientôt s'effondrer. Même quand les bûcherons entraient chez eux pour le temps des fêtes, quelques devaient demeurer au camp pour prendre soin des chevaux. Cette année-là, mon père s'était offert volontiers pour s'occuper de cette tâche. Cela lui rapporterait un peu plus de gagne et nous saurions certainement profiter de l'argent supplémentaire. Maman nous a pris calmement la nouvelle quelques jours avant Noël. Le moins que l'on puisse dire est que ce fut pour nous une terrible déception. Pour essayer de nous consoler et de nous calmer, maman nous fit la promesse qu'elle nous amènerait à la messe de minuit. Cette année-là, le temps hivernal s'était installé tôt dans la saison, mais la veille de Noël fut une journée superbe. Le grand calme régnait comme c'est toujours le cas avant nos fêtes. La hausse de la pression atmosphérique change la densité optique de l'air, ce qui fait apparaître les montagnes plus proches et très à point. Les moindres sons produisent des rappels qui se propagent sur de longues distances. Ordinairement, ces conditions peuvent durer presque une journée entière avant que la tempête nous arrive. Tout le monde savait qu'il s'en venait un gros vent du sud-est pour le matin de Noël, mais il n'était pas attendu avant vers les 3 heures. Remplis d'anticipation, nous nous étions préparés pour nous rendre à l'église et nous attendions avec impatience que le fourgon de Denis Lefort remonte la rue. Nous étions montés dans la voiture alors qu'elle allait vers Point Cross pour jouir d'une plus longue promenade. C'est en rebroussant chemin vers l'église qu'on se mit à ramasser des passagers. À un des arrêts sur notre route, lorsque la porte du fourgon fut ouverte, on pouvait entendre le doux bourdonnement du vent qui commençait à s'élever dans les montagnes. C'est là l'avertissement que les gros vents s'en viennent dans quelques heures tout au plus. C'est alors que maman décida que nous ne prendrions pas le risque de nous rendre à l'église. De retour à l'allée de notre domicile, elle demanda à M. Lefort de s'arrêter pour nous laisser descendre. Nous, les enfants, n'étions point contents. Trop jeunes pour savoir apprécier la sagesse de la décision de notre mère, plein de ressentiment envers elle, il nous fallut regagner la maison. Moins d'une heure plus tard, le vent du sud-est avait déjà gagné beaucoup de force et il se mit à neiger. Maman nous fit éteindre toutes les lumières de crainte que des hommes en boissant pris dans la tempête ne viennent frapper à notre porte pour se mettre à l'abri. Avec beaucoup de frustration de ne pas avoir pu assister à la messe de minuit, il fallut aller nous coucher, bien résigné au fait que le jour de Noël serait plutôt ennuyeux dans l'absence de papa et sans aucune visite de la parenté en raison du mauvais temps. À peine étions-nous au lit que quelqu'un s'en vint frapper à la fenêtre de la chambre de ma mère. C'était une de nos voisines qui connaissait notre maison aussi bien que nous-mêmes. « N'aie pas peur, Hélène, » s'écria-t-elle. « C'est Marie-Hélène Avirian. Nous sommes pris dans la tempête. Viens nous ouvrir et nous laisser entrer. » Maman se leva pour ouvrir la porte et toute une bande de monde se mit à entrer. Ils étaient tous des gens de plateau qui voyageaient à l'église en taxi. Les taxis les avaient ramenés de la mer jusqu'à chez nous, mais ne pouvaient pas monter le chemin Lefort pour les rendre à domicile. Les bas de neige bloquaient déjà les routes d'en arrière. Réveillés par tout ce brouhaha, ce fut toute une surprise pour nous les enfants, en descendant le calier, de découvrir la maison pleine de monde. 22 personnes allaient passer Noël chez nous. En peu de temps, c'était la fête avec des gens qui racontaient des blagues et toutes sortes de drôles d'histoires pour faire rigoler les autres. Il y avait dans la bande une dame qui fut particulièrement divertissante, Sophie Ann Roach, maintenant décédée depuis déjà plusieurs années. Celle-ci était bien connue pour les rôles comiques qu'elle jouait dans les concerts paroissiaux ou d'antan. Naturellement, il y eut aussi beaucoup de chants, des cantiques de Noël, ainsi que de nos vieilles chansons d'Acadie. De temps en temps, durant la nuit, les plus âgés et les jeunes enfants se partageaient les quelques lits disponibles pour sommeiller un peu. Je me rappelle encore que moi, qui n'étais qu'un garçonnet de 7 ans, j'étais allé me coucher tout seul et m'étais réveillé quelque temps plus tard en compagnie d'une dame de 53 ans qui partageait le lit avec moi. Ça ne me prit pas bien longtemps à me sortir du lit. Un adolescent que nous n'aimerons pas était tombé endormi dans le salon. Alors qu'il dormait, quelqu'un prit la poupée de ma sœur et la lui plaça entre les bras. Quelle gêne il subit lorsqu'il se réveilla serrant la poupée contre sa poitrine. Nourrir toutes ces gens représentait tout un défi. Ma mère avait préparé de la nourriture pour 4 personnes. Cela n'irait pas bien loin pour en nourrir 22. Les pâtés à la viande et les tartes aux pommes furent vite consommés. Mais maman était toujours prête à recevoir de la visite inattendue. À chaque automne, elle serrait en conserve dans des bocaux scellés de la viande de chevreuil et des légumes périssables. On pouvait rapidement réchauffer ces aliments pour la consommation tout au long de l'hiver. À part ça, nous avions bien sûr de grandes quantités de pommes de terre et de légumes non périssables emmagasinés à la cave. Ces réserves de manger furent très utiles pour bien nourrir tout le monde. Aux petites heures du matin, une couple de gars qui avaient pris quelques petits coups décidèrent de préparer un chiot, un mets acadien fait de rondelles de pommes de terre cuites à l'étouffée avec des ciboulettes et des dés de lard salé. Après avoir tranché les pommes de terre, un des gars par mégarde avait oublié son couteau dans le fond de la marmite. Néanmoins, tous trouvèrent le chiot absolument délicieux. C'est seulement une fois rendu au fond du pot qu'on découvrit le couteau avec son manche en corne à moitié fondue. Personne ne mourut d'empoisonnement. En effet, au meilleur de mes connaissances, je ne pense pas que quiconque n'avait subi la moindre indigestion. Au lever du jour, on ne voyait encore ni ciel ni terre à l'extérieur. Quelques-uns des plus jeunes adultes, les plus en forme, entreprirent alors de gagner leur domicile à pied, malgré la pauvre visibilité et les vents forts. Mais pour les plus âgés et les enfants, cela était trop risqué. Ils demeurèrent donc chez nous toute la journée. La tempête ne commença à se calmer que vers 7 heures en soirée. Alors, les hommes vinrent à travers les champs, avec leurs chevaux et traîneaux, chercher leur famille. Ils ne pouvaient suivre les routes car les bancs de neige étaient tout simplement trop hauts pour que les chevaux ne puissent les traverser. Avant leur départ, les gens que nous avions abrités et nourris eurent la gentillesse de prendre une collecte entre eux pour rembourser ma mère pour la nourriture qu'ils avaient consommée. Elle ne s'y attendait pas et elle ne voulait pas accepter leurs dons, mais ils insistèrent. Ils savaient très bien que nous n'étions pas riches et que leur contribution nous aiderait bien à nouer les deux bouts. C'est ainsi qu'un Noël que nous avions craint serait plutôt triste et ennuyeux avait fini par être une merveilleuse journée vécue avec amis et voisins dans une atmosphère de partage, de plaisir et de joie. L'année 1955 demeurera toujours bien ancrée dans ma mémoire comme l'année où nous avions vraiment vécu l'esprit de Noël.
Vous écoutiez le récit « Un souhait à Noël » tiré du livre « Cape Breton Christmas Book 2 » publié par Ronald Kaplan de Breton Books à Rec Cove au Cap-Breton. L'auteur et le narrateur étaient Charlie Dan Roach. Le montage a été assuré par Justin Aucoin.